d'une métamorphose. Louis Chauvel, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, malheur au jeune qui n'a pas le soutien de sa famille. Dans tout ce que vous dites, dans ce petit livre qui va être publié cette semaine au Seuil, La dérive des classes moyennes, et où en fait vous répondez à la question toute simple, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la société française, j'ai choisi, Louis Chauvel, de commencer par cette réflexion que vous faites parmi beaucoup d'autres. Vous dites, malheur à celui qui n'a pas le soutien du capital de sa famille, et vous ajoutez même, parce que c'est difficile de vivre avec un revenu égalitaire de pays socialiste dans un pays qui ne l'est pas socialiste. Hein. En quoi c'est réellement nouveau ? Dans la famille, est-ce qu'on n'a pas toujours soutenu celui qui démarre ?
Ce qui est nouveau, c'est que dans les années 60-70, il était possible à des gens issus de la classe ouvrière, n'ayant pas le soutien de leur famille, de se faire soi-même par les opportunités qui s'ouvraient dans la société française des années 60-70 et tout début 80. À partir des années 70-80, ce qu'il faut voir, c'est que les jeunes ont vu baisser considérablement leur niveau de salaire. En 77, il y avait 15% de décalage entre le salaire à 30 ans et le salaire à 50 ans. À partir aujourd'hui, l'écart n'est plus de 15%, il est de 40%. Ce qui veut dire que le niveau de salaire des jeunes trentenaires est très faible. Les prix du logement ont complètement changé. À Paris Intramuros, par exemple, en 84, une année de travail à 30 ans, de quelqu'un de 30 ans, une année de travail, c'était 9 mètres carrés à l'achat. Aujourd'hui, il n'y a plus que 4 mètres carrés. Des jeunes qui travaillent aujourd'hui à temps plein toute l'année, et c'est déjà très sélectif de pouvoir avoir un emploi à temps plein toute l'année à l'âge de 30 ans, ne peuvent pas décemment vivre du fruit de leur travail, alors que cela était possible dans le modèle de société des années 70.
D'où l'importance des familles. Dans votre livre, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples concrets, comme vous venez d'en donner, notamment vous prenez l'exemple de deux fonctionnaires, vous précisez même deux attachés d'administration centrale qui ont chacun un salaire de 2500 euros. Un, avec ses 2500 euros, il doit tout payer. L'autre, ses parents ont mis à sa disposition un appartement. Et bien vous dites, c'est de là, ils ont beau gagner la même chose, ils ont beau faire la même chose, ils vivent dans deux mondes radicalement
aujourd'hui,
différents.
Aujourd'hui, pour les gens qui ont moins de 40 ans, le logement est devenu un poste budgétaire qui représente plus du tiers des dépenses. Si ce tiers des dépenses est assuré par vos parents parce qu'ils ont eu une stratégie patrimoniale, ils ont eu de l'argent ou ils ont de l'argent, eh bien votre niveau de vie est complètement différent. Dans un cas, si vous devez trimer pendant toute l'année à payer tout, absolument tout, vous pouvez vivre d'une façon extrêmement modeste, même avec 1500 ou 2000 euros par mois, alors même que dans le cas inverse, si vous avez une mise à disposition, eh bien tout ce que vous gagnez, c'est de l'argent de poche, vous pouvez le dépenser comme vous le voulez, mais j'insiste en fait, on insiste là sur...
Vous avez une grande expression, vous dites qu'il y a aujourd'hui une mendicité familiale, et vous ajoutez, elle est énorme, cette mendicité familiale.
Heureusement, à la limite, cette mendicité familiale a sauvé d'une certaine façon la société française. On l'a vu au moment du CPE, les jeunes connaissent des conditions économiques de plus en plus modestes, de plus en plus difficiles, les familles ne leur seraient pas venues en aide, ces jeunes auraient pour la plupart... sombrer dans la pauvreté.
Mais en même temps, les entreprises le savent.
Tous ces jeunes qui, pendant plusieurs mois, plusieurs années, vivent avec 350 euros par mois de stage, tous les stagiaires à 350 euros par mois, c'est simplement la contrepartie du fait que les entreprises savent que les parents, parents peuvent payer.
Patron,
mais il y a aussi les parents qui ne peuvent pas. Ouais. Sauf qu'il y a en même temps les parents qui ne peuvent pas payer. Les jeunes qui n'ont pas le support de leur famille, les jeunes qui ne sont pas fils à papa, fils à maman, avec une famille qui a des biens derrière eux, peuvent se trouver dans une situation très difficile.
Alors pourquoi les titres, les diplômes, c'est à ça qu'ils devraient servir. Pourquoi ça ne marche plus, ça ? Parce que vous dites que c'est propre à la France.
C'est propre à la France. En fait, dans ce bouquin, j'explique que le malaise des classes moyennes et le malaise des générations se rencontrent aujourd'hui dans la société française. On a parlé des jeunes, des difficultés des jeunes, mais en fait, les jeunes ne se contentent pas d'être jeunes. Ils préfigurent l'avenir. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est d'être les vieux de 2030. Le problème, c'est que la façon dont on socialise les jeunes générations aujourd'hui laisse imaginer que si on laisse à volo les dynamiques actuelles, la France de 2030 sera un pays repatrimonialisé, avec d'un côté les héritiers, de l'autre les gens qui triment pour à peu près rien et sans espoir de monter dans la hiérarchie sociale. On risque d'aller vers une société qui n'est plus une société de méritocratie fondée sur ce que l'on fait, mais sur ce que l'on a eu à la naissance. C'est très dangereux, simplement parce qu'il y a eu d'autres étapes dans la société française, 1789 ou d'autres moments, où cette situation de fin de la méritocratie a été payée politiquement à un coût énorme.
Il y a 30 ans, en 1970, l'université délivrait deux fois plus de licences universitaires que 10 ans auparavant. Mais la licence avait toujours la même valeur. Il y en avait deux fois plus, mais la licence avait toujours la même valeur. Aujourd'hui, la licence n'a plus la même valeur. Hein. C'est plus un ticket d'entrée.
La situation, c'est que en France, il y a une génération centrale, pivot, qui a été au centre du changement social depuis une trentaine d'années. C'est la génération du baby-boom, celle qui a eu 20 ans en 1968. Cette génération a bénéficié d'une très forte croissance des diplômes, et en même temps, la croissance économique était au rendez-vous, ce qui veut dire qu'ils ont pu monter dans la hiérarchie sociale. Assez souvent, cette génération, pour beaucoup issus des classes populaires, ont réussi à monter dans la catégorie des cadres, des classes moyennes supérieures, et ont réussi à... L'ascenseur social fonctionnait vraiment. Leurs propres enfants, aujourd'hui, sont en train de connaître le reflux de cette même situation. Souvent, leurs propres enfants, parfois avec trois années d'études en plus, se retrouvent dans des positions sociales à l'entrée dans la vie inférieures à celles de leurs parents, jeunes baby-boomers des années 70, lorsqu'ils commençaient dans le monde du travail.
Arrière-grand-père, agriculteur, hein, grand-père, instituteur, père, polytechnicien, et le fils...
Schizophrène, c'est voilà. Une plaisanterie de psy.
Vous dites que c'est une plaisanterie de psy, elle fait rire Pierre Lévy-Soussan qui a l'air de l'entendre pour la première fois, mais vous dites que malheureusement c'est pas seulement une plaisanterie de psy. Hein.
Il se trouve qu'effectivement depuis 25 ans maintenant, les salaires ont cessé d'augmenter en France, les séries statistiques sont terribles, ici on n'a pas le temps d'en parler, mais elles sont véritablement terribles, alors que les jeunes baby-boomers ont réussi en moyenne à connaître une carrière, leurs propres enfants soit rentrent très bas sur l'échelle, soit n'arrivent même pas à atteindre l'échelle, même en se hissant on se trouve aujourd'hui face à une situation où la nouvelle génération a un très gros problème d'identité. Parce qu'ils ont bénéficié de leurs parents, souvent de beaucoup d'aide, ils ont bénéficié d'un système scolaire en très forte croissance qui leur a donné tout un ensemble de ressources économiques et éducative, et ils n'arrivent à rien en faire. Beaucoup de jeunes intériorisent cet échec en se disant que c'est leur propre échec personnel. Mais en définitive, c'est aussi un échec civilisationnel qui est que nous n'avons pas réussi à offrir à la génération suivante une situation meilleure que celle de leurs propres parents. Et ce phénomène-là est encore plus violent au sein des classes moyennes, en particulier des classes moyennes intermédiaires, et en particulier ceux du public. Autrement dit, du public ou de l'État-providence, travailleurs sociaux, travailleurs de la santé, instituteurs, certifiés, agrégés dans les lycées, qui sont des gens qui, typiquement, les parents font partie d'une catégorie sociale qui a connu une très forte expansion, et maintenant, la compression est vraiment au rendez-vous. Par exemple, quand on analyse la pyramide des âges des psychiatres, on se pose vraiment la question de comment va-t-on assurer un suivi de la des jeunes populations en difficulté aujourd'hui, lorsque cette population sera partie massivement à la retraite dans les 5 à 10 ans, et ce problème n'est pas simplement le problème des psychiatres, c'est assez souvent le cas de la pédiatrie, de la médecine assez souvent, mais aussi de tout un ensemble de services publics, où nous allons avoir un service public massif, onéreux, mais où tout le monde sera à la retraite à l'horizon de 10 ans. Ça coûtera très cher en retraite, mais en même temps, les services ne seront plus là. Cela pose des questions à la classe moyenne, mais ça pose aussi des questions à l'ensemble des classes sociales à côté. Je veux dire par là que dans les années 70, les classes moyennes étaient l'espoir d'ascension sociale pour une partie importante de la société française. Maintenant, on vit le reflux, le retour de bâton, le backlash de tout ça, et l'une des grandes difficultés de la prochaine campagne électorale, c'est où allons-nous alors même que nous avons des tendances sociétales, notamment des classes moyennes, qui nous posent de vraies difficultés par rapport à la prévision et à l'organisation de l'avenir.
Et en 82, l'âge moyen du représentant politique ou syndical, c'était 45 ans, et bien en l'an 2000, c'est 59 ans. Voilà, les classes moyennes à la dérive, ça sort cette semaine, c'est signé de Louis Chauvel. Quelques pubs, et juste après, Denis Salas pour le livre qu'il va publier avec Antoine Garapon sur ce que pourrait être la justice de demain, avec un titre franchement énigmatique, mais il va nous expliquer. Les nouvelles sorcières de Salem.
À l'occasion de la fête de la science, demain, Europe 1 s'installe à Grenoble. À partir de 18h, à l'air libre sera en direct de la maison des micros.